Voilà, nous allons retourner dans l'Épître aux Hébreux. Alors, désolé pour les personnes qui n'étaient pas là la fois dernière lorsque j'ai prêché déjà sur l'Épître aux Hébreux. Nous avions vu la foi d'Abraham. Et l'obéissance d'Abraham. Nous avions vu que Abraham était parti pour s'établir. Qu'il avait laissé sa vie passée, sa vie antérieure, qu'il avait laissé aussi sa spécificité de côté pour accepter d'obéir à Dieu et de partir. Et on avait vu aussi qu'Abraham avait été éprouvé lorsque Dieu lui avait demandé de lui offrir Isaac. Et j'avais terminé en disant que la foi avait de multiples facettes et qu'aussi on pouvait vivre dans une foi qui est fausse. Dans l'Épître aux Hébreux, lorsqu'on dit que la définition classique qui est donc celle de Hébreux 11, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On a là une définition générale de la foi. En fait, dans le grec, ce n'est pas « or la foi », c'est « or foi est une ferme assurance ». Et c'est ce qui nous indique que la définition qui est donnée là est une définition d'ordre général sur la foi et que finalement tout le monde a la foi. Et on vit tous par la foi. On vit tous par la foi en quelque chose ou en quelqu'un. Et on est tous conduits par la foi. Et si on lit les évangiles, on s'aperçoit que des gens auront guéri des malades, auront chassé des démons, auront accompli des miracles extrêmement importants, pensant le faire par la foi en Jésus. Mais Jésus leur dira, moi je ne vous connais pas. Et donc on peut facilement s'imaginer qu'aujourd'hui même, des miracles sont accomplis par le nom de Jésus. Mais en réalité, ces miracles ne viennent pas de lui, puisqu'il ne connaît pas ceux qui en sont l'auteur. Donc il faut garder à l'esprit ces aspects et réaliser que tout ce qui ressemble au christianisme, tout ce qui ressemble à la réalité, n'est pas réalité. Et on a besoin de savoir discerner les esprits, n'est-ce pas ? Savoir qui et quoi est à l'origine de ce qui se passe. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a un avertissement constant. L'inquiétude de l'auteur, alors on ne sait pas qui a écrit, moi j'ai tendance à penser que c'est l'apôtre Paul quand même, mais l'auteur a une inquiétude. C'est celle de voir ces juifs croyants, chrétiens, se retirer de cette foi qu'ils viennent d'embrasser. Ils ont eu les preuves que Christ est effectivement le Fils de Dieu. Il y a eu des gens qui leur ont témoigné, des gens qui ont vu Christ et qui ont témoigné, qui leur ont témoigné. Ils ont cru, mais ils ont aussi vécu des difficultés. Ils ont vécu des épreuves. Et leur foi est en danger. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le sait, et c'est pourquoi il écrit cette lettre. Alors, il y a cinq sortes d'avertissements qu'on retrouve tout au long de cette épître. Je vous les donne rapidement. Au chapitre 2, où l'apôtre dit qu'il faut faire attention et de ne pas être négligent par rapport au salut. verset 3. Un deuxième avertissement dans le chapitre 3, qui concerne l'incrédulité. On le voit ça au verset 18. À qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc l'inquiétude, c'était que ces hommes se privent de la bénédiction qui est donnée à tous les enfants de Dieu. Il y a un troisième avertissement dans le chapitre 5. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Et plus loin, la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est évidemment ce qu'ils ne faisaient plus. Un quatrième avertissement dans le chapitre 10. Le juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Évidemment, il y a d'autres versets encore. À chaque fois, je vous donne juste quelques bribes, mais c'est des fois des passages plus longs. Et vous avez un cinquième avertissement qui est dans le chapitre 12, qui est « Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle ». Il y a des possibilités pour que nous soyons concernés par l'Épître aux Hébreux, n'est-ce pas? Et je crois que l'avertissement qui est donné là aux Hébreux, nous pouvons aussi le prendre pour nous. Et parce que lorsque Dieu, du fait que Dieu s'est investi comme il s'est investi, il est complètement, j'allais dire, stupide de faire marche arrière. C'est se mettre en danger, en tant que croyant, de façon complètement irraisonnée. Et j'ai pris pour essayer de comparer un peu, ou de comprendre un peu ce que ça peut être, une histoire qui est celle de Saül, pour nous expliquer un peu ce que c'est que de passer à côté, en fait, des plans de Dieu pour nos vies. De faire exactement ce qu'il ne faut pas, ou de faire exactement ce qu'il faut pour que la bénédiction ne vienne pas. On va aller dans 1 Samuel, au chapitre, à différents endroits. Et donc vous savez que Israël a demandé un roi pour la première fois, et Dieu leur a accordé cette demande. Et ce premier roi donc s'appelait Saül. Au chapitre 13 de 1 Samuel, Saül était âgé de 3 petits points lorsqu'il devint roi. Mais si on va un petit peu avant, au chapitre 10, il y a une rencontre entre Samuel et Saül, et Samuel lui explique des choses, et il lui explique comment ça va se passer. Et c'est merveilleux de lire ça, parce que c'est rempli de promesses, c'est prometteur. Et on se dit, moi, on aurait bien aimé être à la place de Saül, en fait. Écoutez. Alors, je vais commencer au verset 5 du chapitre 10. « En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédé du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours, jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Lorsqu'ils arrivent à Gibéa, voici une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit, et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, « Qu'est-il arrivé au fils de Kish ? Saül est-il aussi parmi les prophètes ?» Alors, moi je trouve ça merveilleux en fait. C'est une nouvelle naissance. On ne peut pas appeler ça autre chose. Il a eu un nouveau cœur. À un moment, Samuel lui dit, fais ce que tu trouveras à faire. Car Dieu est avec toi. Ça m'a fait penser à la situation d'Adam. Adam avait eu toute la gestion de l'endroit où il se trouvait. Et il n'y avait aucun frein, aucune restriction, si ce n'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, on a un peu la même chose. Fais ce que tu trouveras à faire, je suis avec toi, je serai avec toi. Il n'y a pas de restriction, si ce n'est une. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive. Si Adam n'avait pas péché. Je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question. Si Adam n'avait pas péché, qu'est-ce qui se serait passé? Il était saint déjà. Mais peut-être que sa sainteté aurait été confortée. Sa capacité à résister à la tentation aurait été renforcée. Son caractère aurait sans doute encore progressé en qualité et en sainteté. Et ensuite, peut-être qu'il aurait été transformé, il ne serait pas mort, il aurait été transformé, son corps aurait été transformé dans un corps glorieux. Peut-être. Si Saül n'avait pas péché, qu'est-ce qui se serait passé? Mais il a péché. Et au chapitre 13 et au verset 14, verset 13, Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. » Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un moment où Saül était attaqué par les Philistins. Il attendait la venue de Samuel. Il s'est retrouvé sous pression. Et il dit au verset 12, « Les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. » Il avait peur. que les Philistins viennent et remportent la victoire, et ils n'avaient pas accompli l'acte religieux qu'il fallait pour se sentir en sécurité. Alors, il n'a pas attendu l'homme de Dieu. Il l'a fait lui-même. Il a fait selon sa propre logique. Il s'est dit, le principal, c'est que ce soit fait, donc je vais le faire. Peut-être qu'il s'est dit que Samuel était négligent et qu'il devait être là pour faire les choses qu'il avait dit qu'il ferait. Et donc, il s'est octroyé le droit d'accomplir ce que seul Samuel pouvait faire. Et à cause de ce péché, Samuel dit, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. Il avait cédé à la peur. Est-ce que nous sommes de ceux qui cèdent à la peur facilement? Moi, je ne suis pas quelqu'un de courageux. Moi, je cède à la peur assez facilement. Hein, on peut donner des impressions, on peut penser qu'on est fort. Et dans bien des situations, Dieu, lorsqu'il est venu, lorsqu'il nous a rencontrés, il nous envoie une sorte de test. Et c'était pour Samuel, c'était pour Saül le test. Et quelle était la réponse? Quelle est notre réponse lorsque nous sommes testés? Dans Samuel 15, 23, Dieu dit, enfin Samuel dit, ou Dieu dit au travers de Samuel, la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Lorsque Dieu nous teste, c'est pas parce qu'il veut nous faire peur. C'est parce qu'il veut que nous sachions nous-mêmes où nous en sommes exactement avec lui. Et la réponse que nous donnons sera la preuve même de savoir si nous lui appartenons ou pas, réellement. Le problème de Saül, ce n'était pas tellement d'avoir accompli ce qu'il a accompli. Le problème, c'était son cœur. Le problème, c'était que Saül était assez peu investi, finalement, dans ce que Dieu était en train de faire avec lui. Et toutes ses attitudes et toutes ses actions montraient que réellement il n'aimait pas Dieu. Et c'est pour ça que Dieu l'a jugé ainsi. David a fait des choses aussi graves, mais Dieu n'a pas eu la même attitude vis-à-vis de lui. Alors, nos réponses que nous donnons à Dieu, les réponses que nous donnons à Dieu sont liées évidemment à notre foi. On a des fois du mal à décrire la foi et à dire ce que c'est. C'est pas anormal puisque elle prend plusieurs aspects finalement. Mais j'ai relevé en fait des composantes de la foi et J'ai essayé de trouver à peu près trois aspects de la foi. Il y en a plus, mais il y a trois grands aspects à la foi. De façon générale, on peut dire que dans la Bible, la foi, il y a la foi croyance, il y a la foi espérance, il y a la foi foi tout seul, comme je vous ai dit avant. Et il y a la foi, la foi. Alors donc c'est la foi croyance, ça correspond donc en général à l'aspect de l'adhésion intellectuelle à une vérité. Hein, ça c'est voilà, ça se passe là-haut. Tout ce que j'entends, j'y crois. Il y a la foi espérance qui est celle qui est tournée vers le futur et qui est plus la foi d'Abraham, celle qu'on rencontre dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire toutes ces promesses que Dieu avait faites et l'espérance qui était attachée à ces promesses, mais qui est aussi, d'une certaine manière, la nôtre. Et il y a la foi qui est la somme des doctrines. Donc moi, je suis un adepte de la foi X ou un adepte de la foi Y. Et quand je dis ça, c'est que je crois à tout ce qui correspond à la doctrine. Donc c'est la foi qui constitue chaque fois une religion, on va dire. Mais en ce qui nous concerne, la foi, quelle qu'elle soit, finalement, n'a pas réellement de sens si elle n'est pas directement liée à notre salut. Si ma foi est déconnectée de mon salut, alors ma foi, elle ne me sert à rien, si ce n'est peut-être à me sentir bien dans ma vie, à faire des rituels qui vont me satisfaire ou qui vont me calmer lorsque je suis en difficulté. Mais est-ce que la croyance intellectuelle est suffisante pour changer ma mentalité? Est-ce que juste de croire aux vraies choses, aux choses qui sont écrites dans la Bible, est-ce que ça suffit pour transformer mon cœur? Je suis sûr que vous me direz non. Et pourtant, nous avons une tendance qui est d'être très intellectuel. C'est pas anormal. La parole de Dieu nous a été donnée, elle est écrite. Elle a donc été spécialement destinée à cela, c'est-à-dire à déjà nous convaincre intellectuellement. L'apôtre Paul était quelqu'un qui raisonnait beaucoup. Il n'hésitait pas à convaincre lorsque ça se présentait. Donc on peut dire que l'aspect intellectuel est un aspect de la foi. Et beaucoup de gens sont arrivés à la connaissance de Dieu en commençant à lire la Bible et en raisonnant. Je crois qu'il y a un deuxième aspect à la foi qui est l'aspect émotionnel et qu'on néglige beaucoup. Je lisais il n'y a pas longtemps, je ne vais pas dire le nom, mais c'est les écrits d'un théologien français très réputé pour lequel j'ai beaucoup de respect, mais je n'étais pas du tout d'accord lorsqu'il disait que c'est lorsque le cœur de l'homme est convaincu, c'est principalement l'aspect intellectuel qui est touché. L'aspect émotionnel étant extrêmement secondaire. Alors je ne sais pas pourquoi il a écrit cela. Jésus, lorsqu'il prêchait, avait des foules autour de lui. Et lorsqu'il faisait des miracles, il est dit que beaucoup crurent en lui. Et il est aussi dit que Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il savait ce qu'il y avait. Il n'y a pas besoin qu'on lui apprenne ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme. Il savait finalement que les gens étaient attirés par les miracles qu'il faisait, donc par l'aspect émotionnel des choses. Pourtant, il n'a pas cessé d'agir de la sorte. Il a continué à faire ce qu'il devait faire. Je pense que Jésus savait que l'émotion réveillait chez les auditeurs, réveillait chez eux quelque chose qui était endormi depuis très longtemps. Ça réveillait une espérance. Ça réveillait une possibilité nouvelle. Quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Lorsque Jésus parlait et qu'il montrait ce qu'il montrait, il déstabilisait une sorte d'inertie qui existait dans la population depuis longtemps. Des gens piégés par le diable dans le marasme. Et lorsqu'il arrivait, qu'il venait et qu'il accomplissait les miracles, les émotions qui naissaient dans les personnes faisaient que il pouvait dire « Ah, oui, là, il y a quelque chose qui m'intéresse. » Et Jésus savait cela. Il savait qu'il était en train de réveiller des morts. Le matin, lorsque vous vous réveillez, la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est pas un raisonnement mathématique. C'est pas un dit comment est-ce que je vais faire pour me lever. C'est la première chose que vous avez à l'esprit, c'est une émotion. C'est ah, j'ai mal dormi. Ah, je suis encore fatigué. Ou ah, merci Seigneur. Quelle bonne nuit j'ai passée. Merci Seigneur, je suis dans la paix. Merci Seigneur, il y avait des freins à mon bus. C'est une émotion qui vous réveille, n'est-ce pas? C'est pas un raisonnement. Si c'était un raisonnement, je crois que ça vous renverrait tout de suite au lit, dans un profond sommeil. Eh bien, je crois que Jésus agissait exactement de la même manière. Il utilisait tout ce qu'il avait, les miracles, les paraboles, mais sa présence même, pour secouer tous ces gens qui étaient là et qui étaient morts parce qu'il n'y avait rien pour eux, pas d'espoir, pas de possibilité. Et Jésus passait et une nouvelle possibilité était ouverte. Et je pense que beaucoup de ceux qui ont entendu parler de Jésus ont aussi été de ceux qui ensuite étaient bénis lors de la Pentecôte, ou après. Donc, il ne faut pas négliger dans la foi non plus l'aspect émotionnel. Il y a un troisième aspect. Qui a manqué beaucoup à Samuel. Ah, pardon, à Saül. C'était celui d'accomplir la volonté de Dieu. Ou plutôt, l'aspect de vouloir à tout prix faire la volonté de Dieu. Et ce troisième aspect, c'est celui de la foi également. Lorsqu'on a été touché par le Seigneur, alors, il y a quelque chose qui vient en nous, une volonté nouvelle, quelque chose qui n'existait pas auparavant et qui nous pousse à refuser tout ce qui est contre Dieu. Lorsque Saül a désobéi, sa vie est d'une certaine manière devenue un enfer. Il est dit que au chapitre 16, et c'est terrible, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Rendez-vous compte. Dieu lui avait donné un nouveau cœur. Dieu lui avait donné de nouvelles possibilités. Dieu lui a dit, je serai avec toi, fais ce que tu dois faire. Et à cause de son manque d'implication, à cause de la légèreté avec laquelle il a pris les commandements divins, il a désobéi. Et Dieu, l'Éternel, se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Il n'aimait pas Dieu dans son cœur. Il se faisait confiance à lui-même, mais il ne faisait pas confiance à Dieu. Et plutôt que d'avoir en lui la présence reposante de Dieu, tout le restant de sa vie s'est trouvé agité et troublé par cet esprit. C'était aussi la préoccupation de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, que les Juifs convertis soient gagnés par l'incrédulité et qu'ils n'endurcissent leur cœur, et qu'au lieu de développer une résistance au péché, ils perdent la foi et se détournent de Dieu. Comment est-ce que nous réagissons lorsque nous sommes éprouvés, testés, tentés par le péché? Est-ce que il y a quelque chose en nous qui systématiquement plonge lorsque le péché nous est proposé? Alors, je ne dis pas qu'après, il n'y a pas cette repentance, cette volonté de se mettre en règle avec Dieu, et dire « Oh Seigneur, j'ai fait vraiment quelque chose qu'il ne fallait pas. » Mais la semaine suivante, ça revient. Et ainsi de suite. Il n'y a pas de résistance. Il n'y a pas de volonté pour que la chose s'arrête. Il n'y a pas de volonté de se rapprocher de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. N'est-ce pas, des fois, nous demandons à Dieu, mais Seigneur, fais ça pour moi, fais ça pour moi, fais ça pour moi. Et le Seigneur vous répond, approche-toi de moi, approche-toi de moi, approche-toi de moi. Vous savez, réellement, le salut, c'est de se retrouver en présence de Dieu. Et, ou plutôt, c'est de retrouver Dieu en notre présence. Voilà. Parce que, si vous êtes loin de celui qui peut vous sauver, alors vous êtes en danger. Si l'enfant est loin de son père qui peut le protéger, il est en danger. Mais si vous êtes proche de celui qui peut vous sauver, alors le salut est à votre main. Je crois que finalement la foi, c'est effectivement des émotions, c'est effectivement une parole comprise, mais c'est réellement un abandon. Lorsqu'on est convaincu de ce que Dieu a fait, je ne parle pas de doctrine nécessairement, mais lorsqu'on a reçu d'une certaine manière une sorte de conviction forte que c'est vrai, et même si on n'a pas tout compris, alors il y a là un acte qui est nécessaire, c'est celui vraiment de s'abandonner. Celui d'accepter, de capituler. Il ne s'agit pas juste de faire une grande prière en essayant de trouver tous les péchés qu'on a accomplis. Ça va bien au-delà de ça. Il s'agit de descendre de son propre trône, de plier le genou devant Dieu et de tout lui donner. De lui donner notre argent, de lui donner les clés de notre maison, de lui donner notre intelligence, de lui donner nos capacités manuelles, de lui donner notre mari, notre épouse, nos enfants, de lui donner toutes les planches de salut que nous avons dans notre vie, qui sont autres que lui-même, de lui donner notre faiblesse, de lui donner notre propre justice, de lui donner même les éléments de compréhension qu'il vient de nous donner pour que nous venions à lui. La compréhension de la parole de Dieu, bien souvent on est venu, je sais pas, pensez à vos vies, on est venu à la parole de Dieu parfois avec des compréhensions un peu bien bizarres de ce que c'est la réalité biblique. Et pourtant Dieu a utilisé ces choses-là un peu bizarres pour nous attirer à lui. Et c'est pour ça qu'il faut lui donner ça aussi, notre compréhension. Notre conviction de la vérité des choses. Nos émotions. Toutes ces choses sont à donner, à abandonner. Parce que Dieu veut faire une chose merveilleuse. Il veut remplir notre cœur avec l'Esprit de Dieu. Avec la propre pensée de Dieu. Avec cette pensée qui a créé l'univers entier, les hommes, les femmes, tout ce qui s'y trouve, avec cette pensée qui voit bien au-delà que juste le jour d'après, qui voit bien au-delà que juste nos problèmes du quotidien, avec cette pensée pour laquelle le temps n'existe pas et où l'objectif, le seul, et la gloire de Dieu. La foi, si on veut l'expliquer doctrinalement, c'est compliqué. Mais en réalité, si on retient une seule chose, la foi, c'est l'abandon à Dieu de tout ce que nous sommes, et de croire que avec ce qui reste, c'est-à-dire quoi, notre faiblesse, eh bien, il fera des merveilles. S'il y a un fil rouge dans la parole de Dieu, c'est celui-là. C'est dans notre faiblesse que Dieu se glorifie. C'est dans la faiblesse de son Fils que se trouve notre salut. La foi, c'est un acte de soumission inconditionnelle. C'est la vie de Christ en nous. Galates 2:20, je suis crucifié avec Christ. C'est je suis crucifié avec Christ. La Bible, Louis II, traduit j'ai été crucifié. Si vous prenez la traduction Martin ou la traduction anglaise, et le grec, c'est « je suis crucifié avec Christ ». C'est quelque chose qui se passe maintenant. Et si je vis non pas maintenant moi, mais Christ vit en moi, et ce que je vis maintenant en la chair, je le vis en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Il y a une foi, confiance, qui nous amène à Dieu. Et il y a une foi, celle du Fils de Dieu, en nous, qui nous garde dans la présence du Fils de Dieu. Elles ne sont pas les mêmes. La foi du Fils de Dieu, c'est celle qui connaît la pensée de Dieu. C'est celle qui connaît la volonté de Dieu. C'est celle qui contient tous les oracles de Dieu. C'est celle qui contient tous les besoins que nous avons jour après jour. Et c'est cette foi-là qu'il s'agit de capter. C'est cette foi-là que Dieu veut déverser dans notre cœur. Pas la fausse foi que l'on dit avoir en petite quantité ou en grande quantité. D'ailleurs, ça ne signifie pas grand-chose, puisque Jésus dit qu'avec un tout petit peu de foi, on peut déplacer des montagnes. Donc si on n'est pas guéri, ce n'est pas parce qu'on n'a pas assez de foi. C'est parce qu'on ne s'est pas adressé à la bonne personne. C'est parce que la foi qui est en nous et qui nous engage à prier pour certaines choses n'est pas la foi du Fils de Dieu. Je crois que le plus grand danger que de vouloir à tout prix une grande foi, une grande fausse foi, je veux dire, le danger, c'est que nous en arrivions là où est arrivé Saül, c'est-à-dire que Dieu va considérer que notre insistance est de la désobéissance. Et à cause de cela, nous allons ouvrir des possibilités aux malins qu'ils n'avaient pas jusque-là. Et à partir de là, le malin va pouvoir employer notre foi naturelle, se calquer sur notre, profiter de cette foi naturelle que nous mettons en place pour accomplir des miracles qui sont de la réelle séduction. Et aujourd'hui, le monde évangélique est truffé de cela. La seule et unique foi qui vaille, c'est celle qui nous amène à l'abandon de nous-mêmes, à la soumission inconditionnelle à Dieu, où tout ce que nous sommes et tout ce que nous possédons lui sont remis. Peut-être que ça vous fait réagir et peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cette définition de la foi. Que le Seigneur vous éclaire sur ces choses. J'aimerais juste, pour terminer, lire un verset que je crois extrêmement important, parce que à plusieurs reprises, ces deux derniers jours, le Seigneur me l'a mis à cœur ou m'a mis en contact avec ce verset. Et je vais vous le lire, c'est dans Colossiens 1. Non, pardon, c'est Philippiens. Philippiens 4. À partir du verset 9. 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ, et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas à l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous en sommes parvenus, marchons d'un même pas. Philippiens 4, pardon, 3, 8 ou 7 jusqu'à 16. Je propose que l'on prenne 5 minutes et que peut-être, si vous ne l'avez jamais fait ou si vous avez envie de le refaire, parce que ce n'est pas interdit, vous puissiez vous donner au Seigneur à nouveau. Abandonner tout ce que vous êtes, tout ce que vous possédez, tous les blocages, toutes les maladies, toutes les difficultés. Dans votre cœur, dis au Seigneur, Seigneur, je m'abandonne à toi. Ô Dieu, jusqu'à présent, je croyais ceci, cela, mais aujourd'hui, je suis d'accord pour tout effacer et pour dire, Seigneur, prends ma vie, prends les choses en charge, parce que moi, je n'y arrive pas. Que vous puissiez honnêtement vous retrouver devant le trône de Dieu et vous décharger complètement. Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui c'est encore possible de se donner à toi. La fenêtre est encore ouverte et Seigneur, nous pouvons encore entrer. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire que nous avons besoin de toi et que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Il n'y a que toi qui as les paroles de la vie éternelle. Et Seigneur, sachant, nous voulons nous abandonner à toi. Je veux, Seigneur, encore une fois te donner, Seigneur, tout mon cœur et tout mon être, afin, Seigneur, que tu puisses me bénir. Seigneur, nous voulons nous retrouver en toi. Nous voulons, Seigneur, être dans ta présence, non pas juste occasionnellement, mais jour après jour et minute après minute, Seigneur. Connaître la douceur de ta voix dans notre oreille. Connaître l'approbation, Seigneur, de ton cœur sur notre cœur. Savoir, ô Dieu, que nous sommes fils et filles de Dieu, que nous avons été adoptés en toi. Seigneur, nous voulons tout laisser aller. Nous voulons tout laisser partir, Seigneur, ne rien retenir. Nous voulons, ô Dieu, que tu puisses te saisir complètement de nos vies. Seigneur, que tous nos raisonnements faux puisse être pris aussi par toi. Seigneur, que nos caractères que nous pensons ancrés pour la vie. Seigneur, tu puisses les prendre et nous montrer que tu peux nous transformer complètement. Que ces défauts qui reviennent jour après jour, ou régulièrement, Seigneur, tu puisses les prendre aussi. Et Seigneur, nous délivrer complètement de ce que nous étions avant. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit. Seigneur, merci parce que tu veux, Seigneur, déverser avec abondance l'Esprit de Dieu dans nos cœurs. Seigneur, que nos vies soient transformées, que tu ne sois plus juste à l'extérieur comme notre compagnon, mais vivant en nous, nous donnant, Seigneur, le statut de fils. Ô Dieu, nous voulons que tu prennes notre esprit, notre âme, notre corps entier. Seigneur, nous ne voulons rien garder de côté, nous ne voulons pas avoir de jardin secret. Nous ne voulons pas avoir une pièce qui est fermée à clé. Seigneur, nous voulons que tu viennes et que tu déverrouilles complètement nos cœurs et nos esprits. Que tu viennes avec abondance. Seigneur, ta parole le dit, tu es un feu dévorant. Seigneur, nous voulons nous mettre sous ce feu dévorant, Seigneur, afin que tu détruises tout ce qui n'est pas de toi. Nous voulons accepter, Seigneur, ta suprématie. Nous voulons accepter ta royauté. Nous voulons accepter qui tu es. Nous voulons te dire, Seigneur, nous te faisons confiance complètement. Viens au secours de notre incrédulité. Seigneur, viens rendre possible tout ce qui jusque-là était impossible. Seigneur, viens guérir, viens transformer en profondeur. Seigneur, nous souffrons de ne pas t'avoir complètement avec nous et en nous. Seigneur, nous voulons refuser au malin la moindre part. Ô Dieu, Seigneur, viens avec puissance. Seigneur, afin que nos vies soient complètement soumises à la tienne. Seigneur, que l'amour de Dieu inonde nos cœurs et que cela se voie. Que les gens de dehors, Seigneur, puissent voir que nous nous aimons parce que tu es présent et qu'ils croient à cause de cela. Seigneur, notre Dieu, nous avons tant besoin, Seigneur, que tu viennes avec puissance. Ô Dieu, n'hésite pas. Seigneur, viens.